Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. On va bien évidemment parler du tout nouveau gouvernement israélien avec les premières décisions qui sont prises. Il y a, je dirais, deux personnes aujourd'hui qui tiennent, j'ai envie d'employer une expression un peu triviale, deux ministres qui font le show en Israël, c'est Itamar Ben-Gvir, le tout nouveau ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, qui lui est le nouveau ministre des Finances. Alors, première cible de ce gouvernement, c'est les Palestiniens, avec d'abord Itamar Ben-Gvir qui souhaite et qui veut même la suppression de tous les drapeaux palestiniens lors des manifestations. À cela s'ajoute bien évidemment ce que dit Smotrich, à savoir que dans la mesure où l'autorité palestinienne soutient le terrorisme ou les terroristes palestiniens, il faudrait prélever sur les taxes que l'État d'Israël reverse aux Palestiniens une certaine somme, il a parlé je crois de 37 millions de shekels, pour venir soutenir cette fois les victimes du terrorisme palestinien. Et on a vu les déclarations du Premier ministre palestinien qui dit qu'Israël veut détruire l'autorité palestinienne et les Américains ne sont pas du tout contents de ces premières mesures. On va dire ça comme ça, Yigal Palmore.
Oui, tout à fait. Les Américains sont très inquiets. Ils dépêchent sur le terrain, c'est-à-dire en Israël, le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Ils ont dépêché aussi des hauts responsables de l'armée américaine. Ils sont très inquiets, effectivement. Et il y a de quoi. Il y a de quoi parce que, selon les premières déclarations de ce gouvernement et de ses ministres, il va y avoir des changements dramatiques dans la politique et dans l'application des politiques de certains ministères clés. On ne va pas parler du budget pour l'instant, même si ça concerne directement tous les Israéliens. On va parler simplement de ce qui pourrait concerner la sécurité civile et nationale, de ce qui pourrait inquiéter les Américains. Et il voit que, effectivement, les caractéristiques démocratiques de l'État, de l'appareil d'État, sont aujourd'hui sous le doute par des déclarations démagogiques du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui exige que la police emploie des moyens forts contre des manifestants, qui exige que le gouvernement prélève de l'argent, des sommes qui reviennent par des accords bilatéraux dont les Américains sont garants à l'autorité palestinienne. Il voit comment certains ministres, par leur démagogie et par leur ligne politique extrémiste, dont ils ne se sont jamais cachés, poussent les tensions israélo-palestiniennes et les tensions à l'intérieur même de la société israélienne vers un paroxysme qu'ils ne pourraient pas contrôler si tout venait à exploser. Et donc, oui, cela cause une grande inquiétude à Washington. Et disons que le premier ministre israélien qui va visiter officiellement Washington est Ron Dermer, nommé par un proche de Benjamin Netanyahu, pas membre du Likoud, pas politicien du tout, mais simplement un proche conseiller de Netanyahu qui vient d'être nommé ministre des Affaires stratégiques et qui va se rendre dans les prochains jours à Washington pour des premiers contacts premier contact au nom de ce nouveau gouvernement avec l'administration américaine. Pas premier contact en soi, parce qu'il a été ambassadeur à Washington, nommé par Netanyahu à l'époque. Il a été ambassadeur pendant 6 ans et il connaît très bien la machinerie politique de ce pays. Et donc, c'est lui que Netanyahu envoie en premier, pas le ministre des Affaires étrangères, certainement pas le ministre de la Défense, mais bien son conseiller personnel, Ron Dermer, pour des premiers contacts avec la Maison Blanche. On va voir s'il peut parvenir à calmer les esprits à Washington, mais il aura beaucoup à faire.
Oui, et puis il y a un autre personnage de l'État, un autre ministre qui provoque aussi beaucoup de remous, c'est Yariv Levin, qui est le tout nouveau ministre israélien de la Justice. Alors lui, eh bien on va dire qu'il veut faire voler en éclats la séparation des pouvoirs. Hein. C'est aussi simple que ça entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Oui, voler en éclats non seulement la séparation des pouvoirs, mais aussi l'équilibre entre pouvoirs. C'est-à-dire que d'abord, pour le pouvoir judiciaire, ce qu'il préconise, c'est que des juges soient nommés directement par les politiques, donc les membres de la Knesset, et, enfin pas de la Knesset, de la coalition au pouvoir à la Knesset et par le gouvernement, donc des juges qui dépendraient directement du gouvernement en place, ça c'est une chose. Et puis, il voudrait enlever toute capacité à la Cour suprême de contrôler le travail du pouvoir législatif. Aujourd'hui, les juges peuvent siéger en tant que tribunal constitutionnel et annuler des lois qui seraient anticonstitutionnelles. Eh bien, cette capacité serait annulée. La Knesset pourrait, selon cette réforme, voter par majorité normale, n'importe quelle loi, et aucune loi ne pourrait jamais être rejetée par la Cour suprême. Ce qui veut dire une suprématie absolue du pouvoir législatif, et en fait du pouvoir politique, sans la moindre limite, sans la moindre contrainte et sans le moindre contrôle.
Alors, on sait que Benjamin Netanyahou a promis des sommes astronomiques au parti ultra-orthodoxe. Et ces sommes, eh bien, il faudra les trouver quelque part. Et le Premier ministre israélien a eu la très bonne idée de mettre à contribution les municipalités qui ont au sein de leur ville des yeshivot en disant « Ben voilà, moi j'ai promis plus d'un milliard de shekels au parti chasse. Il s'avère que dans telle ville, il y a une yeshiva du parti chasse. Eh ben, cette ville, elle va financer les yeshivot ou la yeshiva de sa ville. Mais voilà, la fronde commence à s'organiser et beaucoup de municipalités refusent tout simplement de financer les écoles talmudiques.
Oui, bien sûr, parce que cela supposerait un poids budgétaire immense dont les sources restent inconnues. Si ce n'est pas prévu par le budget du gouvernement et si l'argent ne vient pas, n'est pas alloué par le gouvernement aux municipalités pour ensuite être distribué aux yeshivot, c'est déjà assez discutable, ça serait assez discutable comme ça, mais supposons que ça passe comme ça, là, les municipalités ne pourraient pas rechigner parce qu'ils ne leur en coûteraient rien, finalement, sauf la gestion, c'est déjà compliqué, mais ça ne passerait pas par leur propre budget. Alors maintenant, elles sont soit déficitaires, soit sur le bord du déficit, on voit mal comment elle pourrait financer à ce niveau-là une quantité de nouvelles institutions religieuses qui jusqu'ici ont été financées par le gouvernement ou par personne. Et d'où viendrait ce budget? D'où pourrait-il venir sinon des impôts des habitants, des résidents de ces villes? Et donc, ça serait aux habitants de mettre la main dans la poche pour financer des yeshivot parce que le gouvernement le leur a promis. C'est vraiment absurde et c'est pour ça qu'un grand nombre de maires et de présidents de conseils régionaux se soulèvent aujourd'hui, même quand ils sont membres du Likoud et même membres prominents du Likoud, comme par exemple Chaim Bibas, qui est maire de Modi'in et un Likoudnik de toute la vie. Ils se soulèvent contre cette proposition et ils disent non, impossible, même si le gouvernement le décrète, nous n'allons pas obtempérer parce que ça serait mettre en faillite toutes les villes.
Encore un mot avec vous. On voit bien, d'ailleurs, on peut le noter, la discrétion de Benjamin Netanyahou qui nous avait habitués à être présent sur les réseaux sociaux, à faire des déclarations pratiquement toutes les heures. Et là, eh bien, on entend Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Yariv Levin. On entend beaucoup de gens et pas lui.
Oui, ce qui est curieux, mais pas totalement inattendu pour ceux qui suivent Netanyahu de très près, il continue à parler, il continue à faire des déclarations, mais à la presse américaine uniquement. Il n'a pas parlé à la presse israélienne, sauf des interventions assez rares, au demeurant, à des médias relativement marginaux, mais identifiés avec la droite dure. Et donc, il ne parle pas aux Israéliens. Il fait des déclarations. Quand c'est un point de presse, eh bien, la presse est là pour tout enregistrer, mais il ne répond pas aux questions. Il n'accorde aucun entretien, aucun, à la presse israélienne, ni aux journaux écrits, ni à la radio, ni aux télés, mais il n'arrête pas d'accorder des entretiens à la presse américaine. Les journalistes israéliens affichent leur mécontentement, mais Netanyahou, selon toute évidence, n'en a rien à faire.
Vous parliez de la radio et de la télévision. Là, on est pris par le temps, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion avec vous. C'est aussi l'avenir de la chaîne publique Cannes, hein, que le tout nouveau ministre des Communications veut fermer purement et simplement. Et là encore, ça en dit long sur le côté, sur, je dirais, les brèches dans cette démocratie israélienne qui sont en train d'apparaître. En tout cas, Yigal Palmor, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Merci, bonsoir.
Merci, bonsoir Pierre.